Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour et bienvenue. Voici un autre numéro du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve, Francis Laloupo, comme chaque semaine. Bonjour.
Le plaisir est partagé, bien entendu. Liliane Niacha, merci à vous d'être là et merci à nos auditeurs et auditrices.
Merci. Francis, où en est la Tunisie un mois après l'adoption d'une loi qui criminalise les discriminations raciales? Adoptée à une large majorité par le Parlement, cette loi punit un peu plus sévèrement les auteurs de racisme. Les autorités sont-elles allées aussi loin comme le demandaient des organisations de la société civile tunisienne? Le texte va-t-il contribuer à combattre efficacement ce fléau dans un pays où les 20% de Noirs se plaignent d'être considérés comme des citoyens de seconde zone? Le débat, c'est dans un instant. Notre second sujet au menu, c'est le Cameroun. Que va faire Paul Biya de son 7e mandat à 5 ans, celui qui est au pouvoir depuis 1982 a prêté serment mardi devant les deux chambres du Parlement. Il a notamment affiché sa détermination face aux sécessionnistes des régions anglophones et c'est justement dans l'une d'entre elles que des élèves ont été kidnappés avant d'être libérés. Biya, quel chantier, quelle priorité est-il encore en mesure de réaliser les ambitions qu'il dit avoir pour son pays? Décryptage à suivre. Madagascar, le second tour de la présidentielle, s'il y a lieu, est prévu le 19 décembre. En attendant, les résultats tombent au compte-gouttes. Mais si la tendance des résultats d'à peine 5% des 25 000 bureaux de vote dépouillés au moment où nous enregistrons l'émission vendredi après-midi se confirme, eh bien, le second round devrait opposer les anciens présidents Raduel et Marc Ravalomanane qui se proclament déjà vainqueurs. Mais attention, rien et absolument rien n'est joué. Plateau avec vous, Francis Laloupo.
Il y a notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Tunis, Jamel Oumsalem, président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme. Jamel Oumsalem, bonjour.
Bonjour, salut à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de votre émission.
Merci.
Merci à vous.
Je me rejoins à vous de Tunis.
Très bien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Un confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Douala, Xavier Messé, enseignant en journalisme à l'Estic de Yaoundé, directeur de la chaîne de télévision HTV. Xavier Messé, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour à Liliane et je vous entends très très bien.
Merci, eh bien, Xavier. Bonjour.
La tradition, on va la respecter. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Jamel Oumsalem, diplômé de la faculté de médecine de Sousse. Vous êtes professeur paramédical à l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Monastir. Vous avez fait partie de la délégation tunisienne sanitaire mandatée pour le renfort médical au Liban pendant la guerre civile en 1982. Et c'est à votre tour du Liban que vous avez fondé le comité local du Croissant Rouge tunisien de Hammam Sousse, dont vous avez été le président de 1988 à 2000, élu en 1990 membre du conseil municipal de la ville de Hammam Sousse sur une liste indépendante. Vous avez présidé de 2003 à 2014 la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme de la région de Sousse, membre de l'instance régionale des élections en 2011 dans votre pays. Vous avez été membre de la section tunisienne du comité exécutif d'Amnesty International de 2013 à 2016. Vous présidez depuis 2016 la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme qui a reçu en 2015 le prix Nobel de la paix en tant que membre du dialogue national en Tunisie. Jamel Oumsalem, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. À vous Liliane à Dakar.
Oui, et Francis, nous allons commencer par le racisme en Tunisie qui est un véritable problème de société, comme l'admettent d'ailleurs les autorités qui ont décidé de durcir la loi. Le Parlement a en effet voté il y a un mois par une large majorité, 125 voix pour, une contre et 5 abstentions, une loi contre le racisme et toute forme de discrimination raciale. Elle était réclamée et attendue depuis des années par des défenseurs des droits de l'homme qui sont optimistes. Reportage de la correspondante de BBC Afrique à Tunis, Siem Asseni.
Une amende de 200 000 à 600 000 francs CFA et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour toute discrimination, propos et actes à caractère raciste. Après avoir été le premier pays arabo-musulman à abolir l'esclavage en 1846, la Tunisie devance à nouveau ses voisins par le vote d'une loi qui criminalise la ségrégation raciale. Un combat mené depuis des années par la société civile et une partie de la classe politique. Les réactions de Rania Ramadan, membre de l'association Mnenti, connu à Tunis pour ses multiples manifestations contre le racisme.
Il existe un racisme verbal, physique et administratif. Un seul exemple que je peux donner, c'est le professeur d'école censé être un modèle qui vous appelle nègre. Aujourd'hui, ce mot est donc interdit. J'ai le droit de porter plainte ou de me plaindre au préfet. Il faut qu'il y ait une prise de conscience.
La loi du 9 octobre 2018 apparaît après plusieurs polémiques dans le pays. Celle d'étudiants subsahariens agressés à l'arme blanche dans les rues de la capitale, mais aussi des Noirs tunisiens, environ 20% de la population, victimes de propos racistes et de rejets par une partie des Tunisiens. À Tunis, Siam Hasseni, BBC Afrique.
Monsieur Jamel Msalem, c'est vrai que ça fait juste un mois que cette loi a donc été votée, adoptée largement par le Parlement. Mais est-ce qu'on peut déjà dire qu'on a observé un quelconque changement dans l'attitude des Tunisiens vis-à-vis de ce fléau, le racisme?
Un mois après, c'est très tôt pour pouvoir juger objectivement un quelconque changement dans le comportement de la société, différents groupes. Mais nous sommes tous réjouis, les militants des droits de l'homme, quelques politiciens, pour l'adoption par l'Assemblée des représentants du peuple de cette loi, tellement réclamée par des activistes de la société civile et la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme fait partie de ces activistes. Nous avons intervenu et à plusieurs fois qu'il y a des agressions raciales à l'égard que ce soit des Tunisiens et des Tunisiennes ou bien à l'égard des étudiants africains qui sont en Tunisie, également par rapport aux migrants de l'Afrique subsaharienne qui sont en Tunisie. Nous venons d'organiser une conférence nationale sur la situation des migrants, surtout de l'Afrique subsaharienne. Au fait, on n'a pas encore utilisé des outils de mesure objectifs pour le changement des comportements de la société, mais c'est toujours un acquis. Un autre acquis en faveur des défenseurs des droits de l'homme, la loi avant la loi contre toutes les formes de la ségrégation raciale était la loi qui criminalise toutes les agressions et toute la violence à l'égard des femmes et des filles.
Donc,
mais il y a aussi un grand travail à faire, que ce soit par les autorités, par le pouvoir par les pouvoirs en place, par l'État, mais aussi par la société civile.
D'accord, vous me direz tout à l'heure, peut-être comment travailler à l'application effective de cette loi. Mais permettez-moi de vous demander, Monsieur Salem, 125 voix pour, une contre et 5 abstentions. Comment interprétez-vous ce vote des députés tunisiens? Il s'agit là d'un vrai plébiscite en faveur des mesures fortes pour punir les racismes.
Alors, justement, nous attendions un vote unanime pour la loi, mais nous étions étonnés parce qu'il y a eu 5 abstentions de la part des députés et une contre. En fait, il paraît que ces députés ont posé des problèmes de la ségrégation positive régionale qui a été instaurée dans la Constitution tunisienne de 2014. Leur suggestion n'a pas été prise en compte dans l'ordre du jour du travail de l'Assemblée des représentants du peuple et je crois que c'est un vote de sanction parce que je ne pense pas qu'il y ait une personne qui est pour la ségrégation raciale, qui est contre la présence de personnes étrangères et notamment subsahariennes et qui sont contre non pas 20%, je ne sais pas exactement parce qu'on n'a pas une étude objective, mais c'est un pourcentage. Il paraît que le nombre des Noirs qui vient se situe entre 10 et 15%.
Et pas 20%.
Non, je ne crois pas, non. Non, parce qu'on n'a pas un chiffre officiel par les instances d'enquêtes qui assurent les enquêtes sociales. En fait, la Ligue tunisienne et beaucoup d'autres associations qui s'occupent des droits humains ont réagi chaque fois qu'il y a une agression ou des propos dans les masses médias contre les minorités raciales, que ce soit de couleur noire ou d'origine autre que la Tunisie, mais aussi nous réagissons immédiatement aussi à l'égard de toutes les formes de ségrégation. C'est-à-dire
merci.
Ségrégation à l'égard des personnes vulnérables, ségrégation à l'égard des régions des favorisées, tous les propos qui sont ancrés dans une mentalité sociétale ancienne et qui apparaît parfois, ce n'est pas un phénomène social réellement, ce n'est pas, mais parfois nous avons des réactions.
Merci. On comprend, vous le dites, la société civile et les organisations des droits de l'homme ont toujours dénoncé le racisme. Merci.
Jamel Msalem, cela fait quand même des années que ces actes de racisme sont signalés en Tunisie, y compris des actes racistes contre des Tunisiens noirs. Comment vous expliquez qu'on ait attendu aussi longtemps avant de produire une loi contre ce phénomène? Est-ce que la société tunisienne s'est enfermée dans une sorte de déni depuis longtemps, refusant d'admettre la réalité du racisme?
En fait, le racisme, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas un phénomène social. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des plaintes ou qu'on constate des agressions à l'égard des agressions raciales, je dirais. Mais chaque fois, c'est la société civile et quelques politiques qui ont fait le lobbying, qui ont préparé un projet de loi et qui ont assuré donc le plaidoyer auprès des acteurs de la Tunisie, que ce soit les acteurs législatifs, que ce soit politiques, mais aussi de la société civile, pour pousser l'Assemblée des représentants du peuple à adopter cette loi. Mmh. Aussi, le président du gouvernement a été indigné juste avant l'apparition de la loi par une agression dans la banlieue nord de Tunis, agression de quelques étudiants subsahariens. Et aussi l'année dernière, moi personnellement et d'autres activistes, nous nous sommes rendus à l'hôpital, là où il y a une étudiante qui a été agressée et hospitalisée. Donc chaque fois qu'il y a une action comme ça, nous réagissons pour créer une pression qui a finalement eu des résultats en adoptant cette loi.
C'est ça. Mais alors, il ne faut pas penser peut-être quand même à vous écouter. On a l'impression que ce sont des actes isolés, mais le phénomène est quand même présent, imprégnant dans la société tunisienne. On se souvient quand il y avait eu la grande communauté des travailleurs de la Banque africaine de développement, la BAD, qui était installée à Tunis. Le président Ben Ali, à l'époque, était lui-même pratiquement monté au créneau pour faire un discours en direction de ses concitoyens, pour les inviter à être plus accueillants, à éviter les actes racistes contre cette communauté subsaharienne de la BAD. Et d'ailleurs, Raouf El-Mey, un député tunisien qui a beaucoup milité pour l'adoption de cette loi, a déclaré lui-même récemment, je le cite, « On a mis du temps à le faire, mais c'est là et on peut être fier d'être les premiers dans le monde arabe. » Fin citation. Alors ma question est celle-ci, Jamel Msalem. Est-ce qu'il existe une expression spécifique du racisme dans le monde arabe? Je parle du racisme anti-noir, précisément.
Je ne sais pas, mais il y a des phénomènes. Probablement des phénomènes isolés. Probablement aussi il y a des actions, des propos, des comportements, des agissements dont nous ne sommes pas au courant. Et ça peut constituer, parce que en fait, on n'a pas une liste exhaustive des comportements racistes, des agressions contre les Noirs, que ce soit tunisien ou bien subsaharien. Mais au fait, c'est une question de mentalité. C'est une mentalité ancrée depuis des siècles chez le citoyen tunisien qui refuse l'autre. Il n'y a pas l'autre seulement de couleur différente, mais il y a l'autre de religion différente, il y a l'autre d'orientation sexuelle différente, il y a l'autre qui... Donc, ce qui est différent, il y a une tendance ancrée dans la société, une mentalité dont on a commencé à lutter, à élaborer des stratégies, des plans d'action pour mettre en place un système, un programme pour effectivement renforcer...
Est-ce que le plus dur ne sera pas de changer les mentalités, justement la... Est-ce que le plus dur ne sera pas de changer les mentalités, de détruire les clichés, les préjugés?
Non, il y a le changement, le travail pour changer les mentalités à travers diverses actions culturelles, politiques, médiatiques et tout ça, mais il y a aussi cette loi-là qui va être appliquée. Elle n'est pas encore appliquée, il y a un mois de sa parution, mais lorsque on commence à juger des personnes à cause de leur comportement raciste, que ce soit des propos verbaux, que ce soit des comportements, des agissements, qui peuvent être, qui peuvent avoir une peine allant de jusqu'à 1000 dinars tunisiens, allant jusqu'à une année, et dans les actions contre le racisme ou bien la propagation des idées pro-raciales, cette peine peut aller jusqu'à 3000 dinars tunisiens et 3 ans de prison.
Chose qui est
importante et qui va améliorer, qui va participer à réfléchir deux ou trois fois avant de faire des propos.
On va voir si la sévérité de la loi peut se montrer, peut s'avérer efficace. Mais Francis, je propose qu'on écoute notre confrère Xavier sur ce sujet. Donc, notre invité commençait à l'évoquer, Xavier, dont la loi du 9 octobre 2018 punit donc de 3 ans d'emprisonnement toute discrimination et a une amende de 200 à 300 000 francs CFA les auteurs du racisme. Est-ce que compte tenu de l'ampleur de ce phénomène, Xavier, et de ce que certains considèrent ou ont considéré comme le silence des autorités, vous pensez qu'on est allé aussi loin qu'il fallait pour combattre réellement ce phénomène?
Mais Liliane, vous savez, la société tunisienne a souvent été aux avant-gardes de la lutte contre les inégalités sur le continent africain. La Tunisie a été le premier pays à avoir aboli l'esclavage officiellement. C'était au début du 19e siècle, c'est quelque chose de très important, 20e siècle, je veux dire. Et le fait que la Tunisie ait, après plusieurs années, fait voter cette loi-là pour punir les actes de racisme, c'est un pas très, très important. Il faut dire que c'est déjà une arme légale, c'est-à-dire le fait que cette loi existe, c'est une arme que les Tunisiens peuvent utiliser.
Mais est-ce que les sanctions prévues sont vraiment... est-ce que cette loi est allée aussi loin que la société civile, disons, ou ceux qui luttent contre le racisme pouvaient l'espérer?
Mais je vais dire que le montant des amendes à payer en cas de discrimination raciale, les amendes à payer n'ont pas d'importance en tant que tel. Le montant, ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est l'acte qui est, à mon avis, moralement important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez qu'il y a une peine qui pèse sur vous parce que vous avez insulté un noir, c'est ça qui est très important. Bon, donc, entre les lois qui sont votées et le comportement de la population tunisienne dans son ensemble, ça, c'est quelque chose de différent. Il faut maintenant qu'on observe, est-ce que les mentalités vont évoluer, est-ce que les mentalités vont suivre cette loi-là. Je pense qu'il n'y a pas la contrepartie de franchir.
Donc pour vous, la loi est dissuasive au moins?
Elle est dissuasive, mais elle ne va pas du jour au lendemain changer les mentalités des Tunisiens. Il faut dire que j'ai l'habitude de dire, peut-être par excès, que nos pays, nos frères du Maghreb, je vais citer l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et dans une certaine mesure la Mauritanie, on a souvent l'impression que ce sont des pays qui se sont retrouvés par un accident géologique dans le continent africain. Donc ils ont toujours eu ce comportement-là, le fait que la Tunisie ait le courage de faire voter au Parlement cette loi-là. Peut-être que ça va amener le Maroc, ça va amener l'Algérie.
L'Algérie et les autres pays maghrébins ont fait autant. On va marquer une pause obligatoire.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupeau.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité dans cette édition depuis Tunis au téléphone, Jamel Msalem, président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, notre confrère invité. Depuis Douala, au téléphone, Xavier Messé, enseignant en journalisme à l'ESTIC de Yaoundé, directeur de la chaîne de télévision HTV. On poursuit ce débat sur cette loi qui a été votée, loi contre le racisme, contre les actes racistes en Tunisie. Jamel M. Salem, on sait que la révolution de 2011 a amené les Tunisiens à s'interroger sur leur société. Depuis quelques années, beaucoup d'actes ont été posés au sein de la société tunisienne, société donc qui s'interroge sur elle-même, sur la manière de vivre ensemble désormais. Est-ce que cette situation nouvelle a favorisé l'action de cette loi? Est-ce qu'elle y a contribué?
L'avancée par rapport à cette loi et quelles sont les conditions qui ont favorisé la loi, c'est qu'après 2011, il y a eu énormément de sociétés, d'associations de la société civile. Parmi ces associations, il y a des associations spécialisées comme MEMPI et autres associations qui ont favorisé le fait de s'occuper de ce problème, surtout de la communauté noire en Tunisie, au sud de la Tunisie. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, je dis à tout le monde et aux personnes qui sont en Tunisie, s'il y a une agression, minime soit-elle, la Ligue est ouverte pour recevoir les plaintes pour se constituer partie civile pour le suivi de ces agressions. Et nous sommes catégoriques pour ça. Nous défendons les victimes de tout agissement, n'importe lequel, un agissement racial. Ça, d'une part. D'autre part, c'est un processus lent. Maintenant, la loi précède le changement sociétal et on va assister à ce changement en créant des lobbying, en assurant des plaidoyers auprès des décideurs, mais aussi en travaillant en profondeur la société avec les jeunes, avec les enfants. Et nous comptons, nous avons mis comme axe de travail pour nos jeunes cette année le suivi de l'application de cette loi et aussi une force de proposition pour proposer des programmes d'action, une stratégie d'intervention pour la sensibilisation.
D'accord.
Et pour aussi la prise en charge des victimes.
Monsieur Salem, vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas tous les jours qu'il y a des plaintes concernant des actes raciaux, mais est-ce que la société civile tunisienne a enquêté sur le phénomène de racisme? Avez-vous des chiffres, disons, sur le nombre de cas recensés, des cas de racisme contre des subsahariens ou des Tunisiens noirs? Peut-être pour nous aider à apprécier l'ampleur de ce phénomène.
En fait, une enquête objective à grande envergure dans tous les territoires, non. Non, je ne pense pas. Mais nous sommes avertis chaque fois qu'il y a des agressions. Mais il n'y a pas que ça. Pour la communauté subsaharienne qui existe dans le sud, dans la ville de Sfax, dans le sud tunisien, il n'y a pas que les agressions et les agissements raciaux.
Le sud tunisien où habite la majorité des Noirs et le sud tunisien dont est originaire aussi l'ancien président Moncef Marzouki, qui a d'ailleurs été l'invité de cette émission en 2015, août.
Oui, en fait, mais il y a des phénomènes dans notre société, par exemple 10% ou 15%, peut-être entre les deux, ne sont pas visibles par rapport aux responsables politiques au niveau régional, au niveau national.
Oui, mais justement, ces Noirs-là se plaignent d'être considérés comme des citoyens de seconde zone et que les gens, ça ne semble émouvoir personne. Même le président Marzouki, qui était originaire du Sud et qui a dirigé le pays, ne s'est pas véritablement consacré à la lutte contre cette invisibilité des Noirs tunisiens dans les hautes sphères du pays.
Ah. Absolument. La représentation sociale dans les postes politiques, dans les grands postes de gestion des sociétés, tout ça, dans tous les mass médias, les Noirs tunisiens ne sont pas présents.
Mais à ce propos, permettez-moi, Monsieur Salem, est-ce qu'un acte politique... Est-ce que justement, il ne revient pas aux politiques de poser des actes symboliques qui pourraient significativement créer une sorte de déclic dans la tête des Tunisiens? Je veux dire, est-ce que nommer des Noirs à des postes de responsabilité dans le gouvernement ne peut-il pas aider à accélérer justement le changement des comportements des Tunisiens?
Justement, ça pourrait être. Pourquoi on n'a pas...
normalement les compétences qui existent dans la population noire tunisienne doit avoir de grandes compétences sûrement. Et il faut un geste, par exemple le gouvernement actuel qui n'est pas encore voté, n'a pas donné la confiance, il y a un Tunisien de confession juive. Et ça c'est une avancée pour un vivre ensemble. Aussi il dû avoir un ministre ou un secrétaire d'État de couleur noire, tunisien de couleur noire, ça aurait poussé un peu les choses vers le changement de comportement et vers l'acceptation de l'autre. C'est comme ça. C'est un processus lent, mais des actions concrètes comme la nomination d'un responsable à la tête d'une grande société un Tunisien noir ou la nomination de quelqu'un à la direction des sociétés de l'information, ou bien un ministre, ou bien un vice-ministre, ou bien un secrétaire d'État, ça aurait poussé les choses vers le sens qu'on veut avoir.
Merci beaucoup. Francis, si...
Oui, une dernière question peut-être. Je voulais signaler avec vous, Jamel Msalem, que voilà, l'association... des étudiants et stagiaires africains en Tunisie a indiqué qu'au cours des 10 dernières années, le nombre d'étudiants subsahariens en Tunisie a baissé de 13 000 à 6 000 seulement. Est-ce que cette situation n'a pas, au fond, un impact sur l'image de la Tunisie, je dirais, sur sa capacité d'attractivité, notamment pour les subsahariens?
Absolument, absolument. Chaque fois qu'il y a un sentiment de malaise dans un pays quelconque, là où on est persécuté, là où il y a des propos racistes, là où il y a des services qui ne sont pas effectués convenablement, ça ne peut avoir qu'en conséquence que le départ de milliers d'étudiants et d'autres personnes de couleurs différentes.
Mais cette
loi va aider à rétablir la confiance. Et aussi, lorsqu'on commence à appliquer cette loi et on l'applique réellement devant les propos racistes avec les différentes peines d'amende et de prison, les comportements, ça ne peut qu'améliorer les choses, ça ne peut que nettoyer un peu les tâches de notre image concernant ce côté-là, ce côté raciste.
Merci.
Le débat Africa BBC.
Et notre grand témoin invité, Jamel Msalem, président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, et notre conférencier invité depuis Douala au Cameroun, Xavier Messé, directeur de la chaîne de télévision HTV. Le Cameroun, justement, les lendemains de la présidentielle au Cameroun, nous allons en parler maintenant. Le 6 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de prestation de serment pour un 7e mandat du président Paul Biya, réélu, on le sait, à l'issue de la dernière présidentielle. Une cérémonie sur fond de contestations et de manifestations interdites d'opposants, notamment des partisans du candidat Maurice Kamto, auto-proclamé vainqueur de cette présidentielle. Une cérémonie aussi sur fond de crise armée persistante dans les régions anglophones, une situation largement évoquée d'ailleurs par Paul Biya dans son discours d'investiture. Alors, en soufflant le chaud et le froid, hein, le président camerounais a en effet invité les séparatistes anglophones à déposer les armes, tout en rappelant que, je cite, ces entrepreneurs de guerre se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination des forces de défense et de sécurité. Fin de citation. Alors, Xavier Messé, première question pour vous. Entre crise sécuritaire et contentieux post-électoral désormais, est-ce qu'on peut dire que les lendemains de la présidentielle sont marqués fortement au Cameroun par de nombreuses incertitudes?
Oui, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Hein. Nous sommes ramassés dans de nombreuses incertitudes. C'est vraiment l'expression qui est liée à la situation que nous traversons en ce moment. Vous voyez donc que le président, contrairement à ce que vous avez dit, qui a consacré beaucoup de temps dans son discours d'investiture à la crise dans la zone anglophone, le président n'a pas consacré plus de paragraphes à cette situation qui préoccupe énormément l'ensemble des Camerounais. Nous avons pensé que c'était donné le temps de prononcer un discours qui était en quelque sorte comme un discours bilan, qu'il allait consacrer beaucoup de temps à cette situation pour explorer les contours et puis faire avancer des pistes, élaborer des pistes de solutionnement, mais nous sommes restés un petit peu sur notre fond dans la mesure où l'objectif du dialogue a été complètement écarté. On a plutôt eu le sentiment que le président a préféré l'option militaire dans la mesure où il dit si vous ne revenez pas à la raison, si vous ne respectez pas les lois, alors là vous aurez en face de vous des armes. Donc c'est le discours que nous avons retenu. Et puis le fait d'avoir ajouté que le processus de décentralisation entamé depuis 1996 sera renforcé et qu'on va l'accélérer. C'est un discours qui semble déjà avoir été entendu, c'est des mots que nous avons entendus plusieurs fois. Vous savez, la décentralisation a été engagée depuis 22 ans et on pense pas que il est marqué plus de 10% de son contenu dans l'ensemble. Donc voilà en ce qui concerne la crise anglophone. Nous, les Camerounais sont restés sur le fond. On a l'impression que le grand chantier qui attend le nouveau président de la République, c'est la guerre. Voilà, l'option de la guerre, il est là pour 7 ans pour faire la guerre.
Xavier, voilà, revenons un peu sur l'investiture de M. Biya mardi dernier. Au regard déjà de la contestation de sa réélection par le professeur Maurice Kamto, qui arrivait second et qui d'ailleurs manifestait aussi le jour de l'investiture du président Biya avec ses partisans dans les rues de la capitale. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être des actes ou des gestes politiques forts qui sont indispensables ou attendus du président Biya qui pourraient peut-être aider à apaiser le climat?
Mais Liliane, le président que nous connaissons depuis 36 ans, ce n'est pas un adepte du dialogue, contrairement à ce que les lieutenants ont l'habitude de le dire. On n'a pas souvent vu le président aller vers les opposants, aller vers les syndicats, solliciter un dialogue lorsqu'il y a un problème d'ordre national. Non, je ne pense pas que dans les préoccupations du président Paul Biya, je ne vois pas du tout une moindre ouverture pour aller vers les perdants, peut-être dans un gouvernement.
Est-ce qu'on pourrait envisager un gouvernement d'unité nationale comme option possible?
Mais il y a des perdants qui sont disposés à cette éventualité. Rappelez-vous, Cabral Libye a fait une petite sortie médiatique en disant qu'il n'exclut pas la probabilité éventuellement de travailler avec le président Paul Biya. Ça veut dire que...
Sous certaines conditions.
Sous certaines conditions, ce sont des phrases politiques. Mais lorsqu'on a déjà avancé le sérieux, c'est que je n'exclus pas. C'est-à-dire que les conditions sont toujours là. Quand on fait un gouvernement d'union nationale, ceux qui viennent rejoindre le pilier central viennent avec éventuellement des conditions. Donc, il est fait de ne pas poser des conditions. Mais donc, sur les 7 autres candidats, je pense que le plus intransigeant reste Maurice Kamto, que je ne vois pas. Faire un pas vers cette solution.
Donc, d'après votre analyse, les autres en dehors de M. Kamto seraient disposés ou pourraient éventuellement entrer au gouvernement dans la perspective d'un éventuel gouvernement d'Union nationale?
Mais si vous avez remarqué, il y a des images que les télévisions nationales ont projetées lors de la cérémonie d'investiture à l'Assemblée, vous avez bien remarqué que Le candidat de FDF était jovialement assis et puis convoité, acclamé par ses collègues députés.
Cela s'appelle avoir l'esprit républicain.
Mais avoir l'esprit républicain, mais c'est tout de suite. Il a été épinglé, il n'a pas été ovationné par son camp qui menace d'ailleurs de le sanctionner. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il s'agit là d'un comportement républicain dans la mesure où il est d'abord député. Il pouvait être à l'Assemblée parce qu'il est député, mais le fait qu'il ait revendiqué la recompte de voix, le fait qu'il ait protesté, le pourcentage qui lui a été attribué, pour moi, ça veut dire que c'est une élection qu'il n'a pas appréciée. Maintenant, fallait-il qu'il refuse d'aller à l'Assemblée le jour de l'investiture? Je pense que sa casquette de député l'obligeait à y être. Mais ça n'a pas été bien vu du côté du FDF.
Et ces images que vous évoquez, justement, est-ce que ça ne confirme pas, justement, l'impossible front de l'opposition tel qu'on l'a constaté avant la présidentielle?
Mais le
un front uni, je veux dire.
Il n'est pas envisageable un front uni, parce que vous voyez, il y a des candidats. Je n'ai pas besoin de les citer, mais vous les connaissez tous, qui n'avaient pas qui n'affichait pas une rivalité absolue vis-à-vis du candidat du RDC, si je veux parler de Paul Biya. Gaga Amanagi avait une fonction, avait un rôle à jouer. Vous avez vu d'autres candidats qui n'ont pas eu de grands pourcentages à cette consultation électorale. Ce sont des candidats qui, non seulement ne peuvent pas constituer un front, ils n'auront jamais vers un front uni, mais d'autre part, ils n'excluent pas la possibilité de faire partie d'un gouvernement d'union nationale.
Mais justement, Xavier, avant de... Francis, vous permettez encore une question avant de passer la parole à M. Oui, Salem. Monsieur. Dans une longue vidéo, Xavier, on a vu le perdant Maurice Kamto appeler toute l'opposition à se joindre à lui pour protester contre ce qu'il appelle la victoire volée. Il les a d'ailleurs cités. Jusqu'à présent, on a l'impression que son appel a été reçu avec discrétion. Enfin, pour être direct, il n'y a pas eu de réponse de la part de ceux qu'il appelait à se joindre à lui. Comment interpréter cela?
Les sept autres candidats, vous savez, peut-être par humour, peut-être par blague, lorsque Maurice Kamto a décidé d'aller déclarer devant les médias qu'il n'a pas perdu cette élection, dans le même temps, Cabral Déby s'est précipité lui aussi dans son QG vocation contre Dengue. Il a amené la presse pour dire que lui également, il ne l'a pas perdu. Alors, il y a donc une espèce de cacophonie qui donne l'impression que les deux leaders, le premier et le second dans la liste...
Mais justement, quel est le risque? Comment interprétez-vous cette façon de se comporter de l'opposition? Surtout qu'il y a la perspective des législatives qui arrive.
Cabral Déby s'est mis dans la posture d'exploiter les moindres défaillances, les moindres faux pas de Maurice Kamto. Chaque fois que Maurice Kamto pose un acte, il exploite tout ce qui pourrait apparaître comme les maladresses de Maurice Kamto. Donc il se place résolument dans une posture qui pourrait l'amener à jouer un rôle de plus important au législatif et au municipal. Dans la mesure où, face au radicalisme total de Maurice Kamto, on voit son camp s'effriter, le pouvoir ne lâche pas de faire tirer sur Maurice Kamto, et qui est aujourd'hui, franchement, dans l'opinion politique, camerounaise, l'homme à battre, même quand on n'a pas suffisamment d'arguments. Alors donc, les candidats, notamment le SDF et le parti de Cabral Déby, sont au rebond, mais pas pour pouvoir récupérer ce qui pourrait éventuellement lâcher le professeur Kamto.
Merci. Francis, avec l'invité, peut-être une réaction. Monsieur Salem, sur l'après-investiture de Monsieur Biya, le malaise est en quelque sorte observé au sein de l'opposition. Allô? Il semble, Francis, qu'on a perdu notre invité.
Ah non, il doit être là, non?
Qu'on va essayer de rappeler. Voilà. Je vais peut-être rester avec vous, Xavier. Voilà, le président Biya a prêté serment, alors que dans la région anglophone du Nord-Ouest, il y avait enlèvement d'élèves. Ils ont été libérés, mais pas tout le monde. Est-ce que, dans ce cas-là, il est encore en mesure de réaliser ou d'apporter la paix que les Camerounais attendent de lui, notamment dans ces deux régions anglophones?
Mais bien d'abord, je voudrais vous dire que même si l'enlèvement des jeunes élèves dans cette zone de Bamenda était arrivé tardivement par rapport au discours d'investiture du chef de l'État, on attendait qu'il fasse tout au moins une improvisation pour dire un mot de ça sur ces enfants qui étaient en souffrance. Il a torturé son discours sans un seul mot, sans un regard de ce côté-là. Et tout le monde a été surpris.
Dans l'appel au dialogue, lancé peut-être par l'Union africaine, ne risque pas de prospérer.
Mais déjà, vous savez, l'Union africaine est restée un tout petit peu muette par rapport à la réélection du président Paul Biya. L'Union africaine est dans sa posture normale de chaque fois qu'il y a un différent quelques incompréhensions quelque part, d'appeler au dialogue. Il ne pouvait pas, l'Union africaine ne pouvait pas ne pas appeler au dialogue en ce qui concerne le Cameroun. Mais toujours est-il que les appels au dialogue aussi sont des comportements diplomatiques qui peuvent ne pas avoir un écho auprès du président Paul Biya, parce que l'attitude qu'il a eue dans ce conflit depuis son départ, nous avons pensé que pendant la campagne électorale, il avait fait une descente, il était attendu au sud-ouest, il était peut-être aussi attendu au nord-ouest, il ne s'est pas déplacé, il n'a pas été fait. On a vu également que dans son dossier d'investiture, la place accordée à ce conflit, la place accordée aux retombées de ce conflit, je pense notamment aux enfants qui ont été enlevés, ça veut dire que le chef de l'État, le gouvernement Oli, a une stratégie qui lui est propre, personnelle, et qui n'a pas dévoilé, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas compris qu'il n'est pas consacré suffisamment d'espace et de temps à ce conflit qui mettent les Camerounais vraiment très, très, très mal à l'aise.
Merci beaucoup, Xavier. Francis?
Xavier Messier, je voulais évoquer avec vous la situation de notre consoeur Mimi Mefo, journaliste à Equinox TV, qui a été donc arrêté, incarcéré et accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Qu'en est-il exactement? Notre consoeur camerounaise, je précise.
Oui, cette Mimi Mefo, elle est coordinatrice de la rédaction de langue anglaise à la télévision Equinox, comme vous l'avez dit. Elle a passé sa deuxième nuit à la prison centrale de New Delhi à Douala. Vous savez, depuis quelque temps, le Cameroun s'est doté d'un arsenal de lois qui sont entièrement liberticides. Notamment, il y a cette disposition légale qui consiste à mener les journalistes à donner leurs sources d'informations, leurs sources qui est de nature à toucher à la défense nationale et surtout depuis que la guerre contre Boko Haram a été déclenchée dans le Nord-Est. Donc, c'est dans ce contexte-là que on a reproché à Mimi Mefo d'avoir relayé une information et que surtout, elle a refusé de dénoncer, n'est-ce pas, de donner le nom de son informateur, bien que cette information ait été relayée. Donc, avec une brutalité inimaginable, elle a passé toute la journée à la gendarmerie de Bonanjo et ensuite, aux environs de 23 heures, elle a été conduite, menée au point, comme Al Capone à l'époque, à la grande époque de la délinquance américaine, elle a été conduite en prison avec des menottes. Voilà.
Merci.
Alors on en est là, le monde de la communication au Cameroun est vraiment
mobilisé.
Ébranlé. Tout le monde est mobilisé. Les messages parviennent de partout, toutes les radios en parlent, les journaux en parlent, les chancelleries installées au Cameroun à Yaoundé s'en mêlent. La société civile a pris l'affaire à bras le corps. Tout le monde est choqué.
Merci, Xavier.
Non seulement elle va s'en sortir très rapidement,
mais qu'elle sera libérée. Merci. On va parler à présent de Madagascar. Et Francis, je note que on a perdu notre invité, M. Djamel Slam. Donc, on va terminer l'émission avec Xavier pour parler cette fois de Madagascar, qui est notre dernier sujet. Vendredi soir, les résultats de seulement 5% des 24 853 bureaux de vote étaient connus à Madagascar. Et pourtant, deux des 36 candidats en lice pour la présidentielle du 7 novembre revendiquent déjà la victoire. Il s'agit des anciens présidents Hans Rajuel et Marc Ravalomanane. Ils arrivent pour l'instant en tête d'après les résultats provisoires et très partiel communiqué par la commission électorale qui a 13 jours après le vote pour publier les résultats provisoires. Xavier, on constate qu'à Madagascar, comme dans beaucoup d'autres pays africains, les candidats choisissent la même stratégie. Certains candidats majeurs choisissent la même stratégie, celle de se déclarer vainqueur avant les structures officielles habilitées.
Oui, c'est le constat que nous avons fait d'une manière générale en Afrique. On le fait, cette manière des candidats de se comporter relève tout simplement du fait que les structures qui gèrent les élections d'une manière générale en Afrique ne sont pas du tout crédibles. Ces structures sont généralement à la disposition du candidat sortant s'il est candidat à sa réélection, et s'il n'est pas candidat à sa réélection, le parti au pouvoir ne se présente qu'un candidat et le jeu est exactement le même. Donc les autres candidats, n'est-ce pas, qui savent qu'ils vont faire l'élection, anticipent toujours en contestant l'application, enfin le processus électoral jusqu'à son résultat. C'est ce que nous avons connu au Cameroun, c'est ce qu'on connaît un peu partout, parce qu'il y a tout le temps des contestations. De l'instant où la structure chargée d'organiser et de gérer les élections en Afrique ne sera pas de structure complètement indépendante, à partir du moment où ceux qui gèrent les élections seront toujours empêtrés dans des comportements de trichage, il y aura malheureusement toujours des contestations.
Francis?
Oui, alors, j'avais, monsieur, alors je vais attirer votre attention sur un fait particulier, c'est que voilà, on voit bien la contestation du scrutin est déjà au cœur de l'actualité malgache, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas malgache aujourd'hui, c'est que cette contestation provient notamment du camp du président sortant, Eri Rajoelina-Rimampian. Alors, est-ce que ce schéma vous surprend, parce que c'est très rare qu'un président sortant devienne le premier contestataire des résultats éventuels d'une élection?
Si on se fie aux sondages qui ont été organisés bien avant cette soutien, on ne le donnait pas vainqueur.
C'est ça.
Ce qui fait que les deux autres candidats, ils se placent dans une posture de quelqu'un qui est victimisé. Ces deux principaux rivaux avaient le vent en poupe et donc le président s'est placé dans une position inconfortable. Ce qui est curieux, c'est que lui, ayant la machine administrative entre ses mains, on l'a d'ailleurs dénoncé d'avoir utilisé des véhicules administratifs, d'avoir utilisé le personnel administratif pour battre campagne de son côté. Donc, il savait qu'il a géré, une période extrêmement difficile. Madagascar ne s'en est pas sorti, à la fois des catastrophes naturelles, à la fois une économie moribonde, malgré sa volonté,
d'infrastructures.
Il n'a pas réussi. Il n'a pas d'infrastructure. Donc, il parle avec un bilan qui n'était pas du tout favorable à sa réélection.
Mais en même temps, Xavier, s'il vous plaît, est-ce que finalement, cette élection n'est pas en train de devenir tout simplement un match de revanche des anciens présidents contre le sortant?
Mais tout à fait, c'est cela. Vous savez, Raja, quand il est sorti, il n'était pas content, mais il était tout simplement amené à sortir. Et le président sortant a été placé, c'est la première fois qu'on voit en Afrique l'appareil judiciaire le placer dans une position encore une fois de plus vraiment inconfortable. On l'a sommé de démissionner avant de devenir candidat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est parti vraiment avec des points négatifs dans la mesure.
Mais Xavier, permettez-moi, messieurs, de rappeler que pour l'instant, seulement 5% des bulletins de vote ont été dépouillés et on n'a même pas encore les résultats partiels.
Mais la contestation a commencé, Liliane.
Exactement, mais pour l'instant, on attend toujours que la commission électorale détermine qui des 36 candidats ira peut-être au second tour ou non et que ces résultats soient confirmés par la haute cour qui va ensuite donc proclamer les résultats définitifs. Donc, mais Francis, vous le dites, il y a déjà des contestations.
Déjà,
et le second tour est prévu. Bien sûr, le 19 décembre. Mais Xavier, c'est
le 19 décembre.
Voilà, je vais peut-être aussi vous poser cette question, Xavier. Donc, je disais, la haute cour constitutionnelle va donc proclamer les résultats 9 jours après l'annonce des résultats provisoires. Le second tour est prévu le 19 décembre. Est-ce que ce n'est pas peut-être le moment où, pour la communauté internationale d'entrer en jeu rapidement, si ce n'est déjà fait, pour prévenir la crise politique, la crise post-électorale qui se dessine? Et peut-être pour essayer de calmer les esprits qui se chauffent déjà dans les QG.
Dans la mesure, où vous l'avez dit, Liliane, vous l'avez dit vous-même, les bulletins ne sont pas tous comptabilisés. Il y a même pas la moitié n'est pas encore
5% seulement vendredi soir.
5% seulement. Et vous voyez que les moyens de communication en Madagascar sont extrêmement difficiles. Les villes, les grands centres urbains sont éloignés les uns des autres. Le transport des villes jusque dans la capitale, ce n'est pas une chose facile, donc ça risque de prendre encore du temps. Alors voyez-vous, si la communauté internationale s'en mêle aujourd'hui, elle risque de perturber le processus. Je pense qu'il est tout à fait normal.
Mais est-ce que le processus n'est pas déjà perturbé, Xavier, par ces revendications de victoire de part et d'autre?
Mais vous savez, cela ne peut pas empêcher que le résultat, vous avez dit ce qui s'est passé au Cameroun. Au lendemain de la clôture de l'élection, quelqu'un s'est déclaré presque, enfin, il a pris une posture de quelqu'un qui n'a pas perdu, qui a gagné.
Pour ce Maurice Kamto.
Les déclarations verbales des candidats vraiment, ça n'a pas une portée de nature à remettre en cause. Moi, je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient. Madagascar, c'est une particularité en Afrique, ce pays insulaire très, très vaste. Il faut tout simplement patienter. Le fait d'attendre le résultat définitif n'empêche que les candidats fassent des déclarations. S'ils font des déclarations, c'est peut-être pour attirer des sympathies. C'est peut-être pour, parce qu'ils savent de quel côté la structure qui organise les élections, de quel côté elle penche.
Mais la CENI ayant accusé de partialité avant même les élections.
C'est un jeu psychologique. C'est pour obtenir quelques sympathies du côté de l'opinion publique, mais ça ne pourra pas perturber en quelque sorte.
La sérénité de la commission électorale. Merci, Xavier.
L'armée à Madagascar est restée une armée très, très républicaine. Vous avez vu au moment de la crise de 2009 à 2013, comment l'armée est restée très républicaine. Elle n'a pas souvent l'habitude de se mêler pour dire qu'elle est elle contrôle et elle met l'ordre. Donc, je ne pense pas que nous puissions, à Madagascar, vivre de nouveau la crise qu'on a vécue.
En 2009, merci.
L'armée était obligée de...
Un mot quand même, Xavier, pour finir sur les populations, la population malgache, parce que vous le rappelez, ce pays est parmi les plus pauvres au monde. Est-ce qu'avec ce western entre politiciens, les préoccupations des Malgaches ne sont pas reléguées au second plan, finalement?
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, l'activité principale à Madagascar, c'est la politique. On n'a jamais vu dans un pays en Afrique 46 candidats.
Pour certains.
À Madagascar, on pense que pour se mettre à l'abri de la pauvreté, il faut être président de la République. Alors, donc, c'est les préoccupations. Madagascar ne peut pas avoir de solution miracle. C'est un pays qui est face à des catastrophes naturelles. Parfois, l'agriculture subit des dégâts, il y a des criquets par-ci, il y a des épidémies par-là. Donc, aucun président ne pourrait apporter de solution miracle. Il faut que la communauté internationale se penche sur le cas particulier de Madagascar.
Merci.
Quel que soit le cas, le président qui sera élu va rencontrer les mêmes problèmes que les présidents.
Une pauvreté ambiante qui tranche avec l'argent déployé par certains candidats pour la campagne électorale.
Le moment est venu d'écouter les messages de nos auditeurs recueillis et livrés à présent par Richard Thierry Mbouekidjina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Tunisie, Charles Bazema demande à notre invité s'il pense que le racisme prendra fin un jour dans les pays arabes en général et en Tunisie en particulier. Et quant à Mephis Kitty, pessimiste, il aimerait savoir pourquoi les lois en Afrique ont souvent des difficultés d'application. Sur le Cameroun, Osana Tehadeum Jimranga estime qu'avec le climat délétère qui prévaut dans le pays, la crise anglophone est loin de s'achever. Et Garça Dias Adios se demande tout simplement où se trouve la jeunesse du pays. Et enfin, sur Madagascar, Albert Sangaré pense que le nouveau président se devra de créer un climat de paix par la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. Merci à Innocent Makotio et Junior Doguer qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/debatbbcafrica et sur Twitter à @debatbbcafrica. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Francis, ayant perdu notre invité
merci,
tout à
Richard.
L'heure, je vous donne le temps de l'invité pour conclure l'émission à sa place.
Oui, je vais conclure l'émission tout simplement en remerciant l'invité qui était avec nous, le grand témoin qui était avec nous une partie de l'émission, Jamel Msalem, président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme. Merci beaucoup à Xavier Messé, notre confrère qui est avec nous au téléphone depuis Douala, enseignant en journalisme à l'ESTIC de Yaoundé, directeur de la chaîne de télévision HTV. Et l'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard. Chargé de production, Richard Thierry Mbouekidjina. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous.
Merci Francis. Et avant de nous séparer, nous présentons nos excuses à tous nos auditeurs pour avoir perdu notre invité en cours d'émission. Donc on espère que Francis, la semaine prochaine, la liaison sera meilleure avec l'invité du jour. Bon week-end. Au revoir.
Bon week-end.